Bonsoir, ça va commencer par une rencontre entre deux leaders mondiaux, Russie, Arabie Saoudite. Leader dans le pétrole, parce qu'en football, je suis pas sûr qu'ils fassent partie des plus grands. Oui, le coup d'envoi, donc demain jeudi du Mondial 2018, ce sera donc à Moscou cette première rencontre. Et c'est inédit, c'est une première pour la Russie. Alors comme à chaque édition, on va parler sport, bien sûr, milliards, on va parler mondialisation. Oui, un mondial très convoité par la Chine, un peu la nouvelle patrie du football, on va vous l'expliquer. Un mondial aussi aux couleurs de la tech, des réseaux sociaux, qui feront partie aussi des diffuseurs cette fois-ci. Alors, ça ne sera pas forcément un mondial comme les autres. Alors 2018, est-ce un mondial qui se démarque? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, avec les meilleurs spécialistes, acteurs aussi, vous allez le voir donc à la veille de cet événement mondial. Tenez avec nous Augustin Pénicaud, directeur associé chez Ava Sport Entertainment, grand spécialiste de marketing sportif. Oui, acteur Damien Neymar, directeur de Hisense France. C'est le quatrième vendeur mondial de téléviseurs, 70 milliards de chiffre d'affaires, 215 millions de téléviseurs fabriqués. C'est une marque chinoise aussi de téléphones et d'électroménagers. Virgile Caillet, délégué général d'Union Sport et Cycle, également grand observateur du foot business. Et puis avec nous, Samuel Loiseau, directeur clientèle du PMU. Oui, PMU, bien sûr, partenaire de l'équipe de France et puis grand acteur aussi en France. Des paris sportifs qui se portent très très bien, ces paris sportifs. Alors, tiens, je vais rebondir sur le fait qu'on est ce soir avec Hisense. On voit par exemple dans les top sponsors du mondial, on a Vanda, un grand groupe chinois immobilier, vous savez, avec du tourisme, de l'hôtellerie, du cinéma également. On a Mengniu, grand acteur des produits laitiers. Je crois que c'est le deuxième acteur chinois des produits laitiers. Donc, rendez-vous compte de l'importance que ça représente. Et puis Hisense. Jules Virgile Caillet, quelle importance ça va avoir l'Asie dans cette édition 2018 et spécialement la Chine donc?
Alors c'est très sensible effectivement sur cette Coupe du Monde en Russie 2018, mais ça fait déjà quelques années que la géopolitique mondiale du sport penche largement à l'Est. Oui. Les pays de l'Est et la Chine en particulier sont organisateurs de grands événements sportifs. Pékin va accueillir les Jeux d'hiver après avoir accueilli les Jeux d'été.
En 2008,
Xi Jinping, le président chinois, est un grand mordu de football, il adore ça. Oui. Il considère même que c'est un véritable levier de croissance, un outil de croissance externe. Et donc, il a décidé que le football, le sport en général et le football en particulier, devait être une source d'investissement pour les marques chinoises. Et c'est ainsi qu'on voit arriver sur le marché, déjà depuis quelques années, mais ça s'accélère, de nombreux sponsors, des investisseurs sur les clubs internationaux. C'est le cas en France d'ailleurs, on a vu apparaître quelques investisseurs. Et évidemment, parmi toutes ces marques, on en a qui viennent s'associer aux plus grands événements mondiaux, à commencer par la Coupe du Monde de football. 40% des sponsors de cette Coupe du Monde de football sont issus du continent asiatique. Oui. Vous voyez le poids que ça prend et l'influence indirecte que ça peut avoir auprès des grands décideurs du sport mondial, que ce soit le CIO ou la FIFA.
Très intéressant. Oui, Damien Neymar, vous qui êtes le directeur de Hisense en France, je le disais.
Marketing.
Marque chinoise, là, des directeurs. C'est un mondial connoté asiatique, connoté chinois, quelque part, qui démarre demain en Russie. La Russie, évidemment, qui déborde largement au-delà de l'Europe, bien sûr, jusqu'à l'Extrême-Orient.
Oui. Il y a des vérités qui ont été dites. En effet, le président chinois est un vrai fan de foot. Il a ambition très proche de pouvoir organiser sa Coupe du Monde en Chine. Cependant, il a la volonté d'avoir une équipe nationale qui puisse faire de bons résultats. Donc ils attendent un peu. En tous les cas, très prochainement, on devrait voir poindre une candidature de la Chine pour les prochaines Coupes du Monde. Et en effet, Hisense fait partie de ces marques-là qui sont persuadées que le football va aider à la notoriété de la marque à l'international. Parce que tout l'enjeu aujourd'hui, c'est l'approche internationale. Chine y compris. Parce qu'aujourd'hui, Hisense est leader en Chine sur la télé depuis 15 ans. Donc c'est énorme, mais aussi se développer à l'international, en Europe, aux États-Unis, en Afrique, voilà, surtout ces pays-là.
Et déjà se faire connaître, on y reviendra justement sur les marques qui se mobilisent dans cet événement considérable aux 3,5 milliards de téléspectateurs. Augustin Pénicaud, directeur associé chez Avasport Entertainment. Et c'est vrai, c'est Virgile Caillet qui le rappelait il y a un instant, le montant des investissements publicitaires. Donc on voit les marques qui investissent. Et parmi les pays qui ont le plus investi, la Chine.
C'est vrai. C'est des investissements de entre... pour être partenaire de la FIFA et de la Coupe du Monde, entre 25 et 50 millions d'euros par an, sur des engagements sur 4 ans, sur 8 ans souvent, voire plus. Donc c'est des investissements importants. Mais c'est le fait que les marques asiatiques investissent, Virgile le soulignait, c'est loin d'être nouveau. Samsung a commencé ses investissements sur les Jeux Olympiques en 96 pour acquérir une
statue davantage aux Chinois, alors, en l'occurrence, parce qu'on aurait pu parler aussi de LG en 2006, aussi sur le Mondial, qui s'était fait clairement connaître à ce moment-là, justement.
Mais alors, sur la Chine en particulier, effectivement, tout le pays et les sponsors en particulier investissent de plus en plus tous les sports dans... beaucoup de catégories en pneumatique par exemple, toutes les marques technologiques également, il y a de nombreuses, beaucoup dans le foot, intéressant de noter ça. Pour l'instant, c'est souvent une logique de notoriété, de statut. Le foot est le sport numéro un par essence au niveau mondial, de loin. C'est quand on regarde les sports qui cochent le plus de cases dans le plus de pays, le foot est très loin devant. Il y a d'autres sports qui marchent très bien dans certains pays, mais le foot a cet avantage-là. Et donc sur des enjeux de notoriété, d'impact direct, sur des périodes très ciblées, c'est intéressant pour ces marques.
Vous étiez avec nous il y a deux semaines, hein. Vous savez, on avait parlé de l'attribution des droits à la Ligue 1 par la Ligue professionnelle de football, donc espagnole
Mediapro,
bien sûr, au détriment de Canal. Et Didier Quiot, qui est juste à côté de vous, il expliquait, c'est le directeur général de la Ligue, hein. Il avait insisté sur le potentiel qu'incarne l'Asie et spécialement la Chine. Et on voit comment justement, eh bien, un certain nombre de matchs du championnat de France, par exemple, ont pu se jouer et vont également se jouer à 13h pour que les Chinois regardent.
Pour couvrir un maximum de créneaux horaires, effectivement, dans la perspective de mieux vendre les droits internationaux du championnat de France de football, donc de Ligue 1. Rappelons également que Mediapro, qui vient de rafler la majeure partie, en tout cas les plus gros lots des droits télé, appartient à 53% à un groupe chinois. Rappelons également que la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel ont ouvert un bureau du football français en Chine, justement pour... avoir des relais. Les Chinois sont très intéressés par tout ce qui est formation, parce que on le disait, le président chinois a l'ambition d'organiser son mondial. On parle de 2030.
Bah oui, parce que 2026, on connaît, on y reviendra d'ailleurs.
On le sait.
Il est à la fois au Mexique, aux États-Unis et au Canada.
Mais ce qu'il faut dire, c'est que non seulement il veut l'organiser, mais il voudrait le gagner. Donc là, il y a un peu de chemin à parcourir, et il a besoin effectivement de s'appuyer sur des experts en formation.
Oui. Alors, à combien vous estimez le montant des investissements publicitaires? Ça va ressembler à quoi le cru 2018 côté business, donc du mondial, donc qui démarre demain en Russie? Augustin Pénicaud, ça pèse combien en milliards d'euros?
En milliards, les investissements, selon une étude de Zenith qui est sortie la semaine dernière, 2,4 milliards d'euros d'investissements publicitaires supplémentaires. C'est-à-dire quand on compte les investissements supplémentaires et qu'on déduit les nombreux partenaires ou annonceurs qui désinvestissent à cette période de l'année parce que c'est très encombré. C'est important de faire la différence, hein. Les 2,4 milliards supplémentaires, ça représente 10% de la croissance du marché publicitaire sur l'année 2018.
C'est ça, 10% de la croissance du marché mondial de cette année, c'est le mondial 2018 de foot.
Exactement. Et ça comprend les partenaires officiels comme iSense et tous les autres qui cherchent à profiter de ce moment-là, des cibles, des profils particuliers des téléspectateurs à ces moments-là, pour donc beaucoup les industries automobiles notamment, qui investissent toujours beaucoup à en juillet autour des Coupes du Monde.
Voilà, on voit, il y a les officiels partenaires de la FIFA donc qui organisent le mondial, il y a Adidas, il y a Coca-Cola, il y a Hyundai, il y a Visa et puis des top sponsors, donc en effet Essence, Vanda, Qatar Airways, les Qataris qui organiseront la prochaine là aussi en 2022, Gazprom, voilà, le fournisseur d'énergie locale. Oui, Virgile.
Non, je voulais rebondir sur ce que disait Augustin, parce qu'effectivement, à chaque fois, ce genre d'événement, moins sur les Jeux Olympiques, puisqu'il n'y a pas de visibilité de partenaires, mais sur la Coupe du Monde de football, il y a toujours un jeu à celui qui saura le mieux contourner un peu les règles, ce qu'on appelle l'embouche marketing, le marketing sauvage. Et donc, on a vu sur les dernières Coupes du Monde des exemples assez originaux, plein de créativité de marques qui ne sont pas partenaires officiels, mais qui viennent chercher les codes.
Vous pensez à quoi, par exemple?
Je me rappelle d'une marque de bière lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud qui avait une cinquantaine de jeunes et jolies jolies jeunes filles qui étaient habillées habillé avec le comment dire le logo de la marque et donc inévitablement sur les premiers matchs les réalisateurs venaient focusser là-dessus et ça a créé une polémique considérable et ce qui incite finalement la FIFA à durcir de plus en plus le cahier des charges marketing, les règles marketing, mais pas plus tard que sur la Coupe du Monde 2014, on a aussi des concessionnaires ou des marques de constructeurs automobiles qui avaient joué justement avec les codes vert et jaune, samba, ballon de foot. Donc inévitablement, ça renvoyait vers la Coupe du Monde de football au Brésil. Mais pour autant, ils n'étaient pas du tout partenaires de l'événement. Donc c'est un petit peu ce que voulait dire Augustin. Il y a effectivement toute la... l'engagement financier des partenaires officiels. Et puis, il y a aussi tout un travail d'action un peu limite d'autres annonceurs.
Oui, d'ailleurs, Samuel Doiseau, directeur clientèle du PMU.
Directeur marketing.
Directeur marketing.
Et a posteriori, à l'issue de la compétition, l'ensemble des annonceurs mesure la trace laissée, la présence à l'esprit en tant que marque de l'ensemble des acteurs, les partenaires officiels et ceux qui ne le sont pas. Et on constate souvent que effectivement, des acteurs qui n'ont aucun lien avec des équipes, des compétitions, sont quand même cités spontanément ou de façon assistée par les consommateurs.
Les organisateurs, ils ont pu trouver les sponsors à temps. Est-ce qu'ils ont des difficultés suite quand même au récent scandale de la FIFA de l'époque Sepp Blatter? Est-ce qu'une Coupe du Monde aussi en Russie, est-ce que c'était plus difficile ou pas pour trouver des sponsors? Augustin Pénicaud à Vasport Entertainment.
Je crois que la FIFA a eu plus de mal que d'habitude à boucler ses budgets marketing, effectivement, ses budgets partenaires. Ils ont innové beaucoup, cherché des nouvelles formes de partenariat. Par exemple, intéressant, ils ont régionalisé les partenariats. Avant, quand on était partenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, on était partenaire au niveau mondial. Et là, ils ont décidé de construire des packages par continent. C'était une initiative intéressante, mais qui n'a pas très bien fonctionné. Et au niveau local, avec les partenaires russes, parce qu'il y a des partenaires internationaux et des partenaires locaux, là aussi, il a fallu... On observe beaucoup d'interventions politiques souvent pour aller chercher ses partenaires. C'est une réalité et qui nécessite... On se retrouve dans le genre de situation dont on parlait tout à l'heure. C'est bien d'être partenaire, de payer X dizaines de millions en fonction des cas pour être partenaire. La question... Et donc là, on obtient de la visibilité sur des panneaux en bord de terrain. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Quelle histoire on raconte? Quelle activation? Quelle mise en scène? Quel engagement du public pendant la durée de la compétition et surtout dans les années, les mois qui précèdent? C'est là qu'un partenaire officiel tire tout le bénéfice de son partenariat. Sinon, on est dans les cas d'embouche marketing, donc quand on parlait
précédemment, tout de suite,
sur les one-shots, qui peuvent être très sympathiques, très engageants, très créatifs, mais pour laisser une trace dans la durée, le partenariat officiel reste intéressant.
Virgile Caillet, juste un mot, parce que là, c'est le premier mondial, donc, que la Russie organise. Ils avaient organisé aussi une toute première pour leur partie. Les Jeux Olympiques de 2014, c'était aussi une première pour eux. C'était Sochi, bien sûr. Est-ce que les Russes ont fait preuve de transparence? Est-ce qu'il y a eu des soupçons? On a beaucoup parlé du Qatar aussi, mais là, ce sera le prochain coup, hein, bien sûr, 2022. Bon, qu'en est-il de la Russie?
Alors, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les deux événements ont été votés ensemble.
En même temps,
le
même jour.
L'attribution s'est faite 2018-2022, ce qui était une première. Et il y a eu beaucoup de Qatar bashing à cette époque-là. Donc, 2022, à quelle date on doit faire ce mondial? Est-ce que c'est l'été, l'hiver, etc.? Il y avait tout un tas de polémiques. Et finalement, on est passé un peu sur le mondial russe, qui a connu, non pas un long fleuve tranquille, mais dans sa conception, dans la construction des stades, il y a eu pas mal de remous, de rebondissements. Finalement, il va coûter beaucoup plus cher que ce qui était prévu. Mais comme il fallait reconstruire tous les stades ou les rénover, construire des autoroutes, etc., c'est un petit peu à l'image de ce qui s'est passé à Sochi. Alors, moins gros, hein, Sochi, c'était quasiment 35 milliards. L'ensemble de l'événement, le coût des jeux était réduit, mais l'ensemble des infrastructures a coûté très très cher.
Combien on a une...
Là, on va être aux alentours de 10 milliards.
Ouais, il y a certaines estimations qui disent jusqu'à 20 milliards quand même. Hein. Le budget initial était de 9 milliards, tout compris. Encore une fois, c'est important de différencier
l'événement lui-même,
l'organisation et le budget total d'infrastructure qui reste et qui est important de différencier.
Mais et donc là, on voit bien le problème. Voilà, on voit bien le problème d'opacité. Voilà. Clairement, alors là, vous avez raison. Oui, c'est très clair. On voit bien que les Russes n'ont pas forcément envie de tout dévoiler. On voit aussi une forme de frilosité de la part des médias qui ne vont pas s'attaquer frontalement à des sujets assez sensibles comme le hooliganisme. Enfin, il y a tout un tas de sujets de société qu'on évite de trop déterrer. Et ça, c'est un peu surprenant, mais c'est aussi, j'allais dire, le lot de ces événements gigantesques dans le sport d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est plus une Coupe du Monde de football. Vous avez le G7, vous avez l'ONU, vous avez Davos et vous avez la Coupe du Monde de foot. Voilà. Donc on est dans cet ordre-là de géopolitique, d'importance, de d'égo surpuissant des dirigeants politiques.
Au-delà d'Augustin Bellego, c'est aussi des stratégies assumées. C'est le cas de la Chine dont on parlait précédemment, de la Russie ici, de nation branding, de construction d'image du pays. Hein, c'est comme une campagne de pub, mais pour le pays. Et c'est constitutif et parfois beaucoup plus efficace que beaucoup d'autres types d'investissements publicitaires. De la même manière que les annonceurs investissent dans le sport, les pays investissent dans le sport. C'est le cas du Qatar, c'est le cas de la Chine avec le foot, c'est le cas de la Russie avec les JO et le foot, etc. Pour donner une image moderne, ouverte, différente, pour faire venir des investisseurs dans le pays. Voilà, si j'organise la Coupe du Monde de foot, je suis dans ces pays-là.
Ouais, pour attirer, pour visiter aussi la Russie, et puis aussi pour le président russe, hein, qui a été réélu donc il y a deux mois, ben de se montrer en permanence. Ça sera aussi à nouveau les Jeux, en tout cas une nouvelle épreuve d'importance mondiale pour Monsieur Poutine.
Hein. Non, mais donner une autre image de la Russie et puis ouvrir le pays. Mmh. Ouvrir le pays, c'est assez hallucinant quand on regarde les chiffres. Je crois qu'ils ont de l'ordre de 30 millions. De visiteurs, de touristes, quand nous en France on en a entre 80 et 90, alors que quand on voit l'étendue du Russie, pays, c'est assez incroyable. Donc il y a des vrais sujets là-dessus pour la Russie également.
À Essence, je reviens juste sur cette marque, quatrième vendeur mondial de téléviseurs qu'on ne connaît pas clairement. Hein. Voilà, moi, franchement, c'est en regardant justement, et la preuve, ça a marché, puisque en voyant les panneaux donc des sponsors à Moscou, donc je regardais ça à la télévision il y a quelques jours. Essence, tiens, qu'est-ce que c'est ? Essence, franchement, c'est l'occasion de vous faire connaître. Je le disais, je citais LG en 2006. Ouais. Ils ont réussi d'ailleurs de se reconnaître dans le monde entier. C'est une occasion de conquérir le monde.
C'est tout l'enjeu pour nous. C'est qu'aujourd'hui, on est quatrième fabricant mondial de télé, quatrième fabricant mondial de réfrigérateurs, on fait du smartphone, on fait plein de produits pour la maison. On est gros en Chine, je disais, on est gros à l'international, mais en Europe, on est tout jeune. On est tout jeune, la preuve, c'est que la filiale française a 4 ans d'ancienneté. Donc il faut imaginer une start-up. Aujourd'hui, en France, on est une vingtaine. Une start-up à qui on offre ce cadeau. Le groupe nous dit, voilà, vous êtes sponsor de la Coupe du Monde, ça va vous aider à travailler au local. Et évidemment, l'objectif, c'est de développer la notoriété sur des marchés aussi concurrentiels que la télévision, le smartphone, les réfrigérateurs et autres. Il y a ce besoin de notoriété, de connaissance de marque et d'appétence à la marque qui est primordial lors du processus d'achat, en fait. Hein, quand on veut acheter un téléviseur, quand on veut acheter un smartphone, la marque est importante. Et donc ça, c'est un vrai outil pour nous, pour développer. Depuis 2016, on était sponsor de l'euro.
De l'euro.
Exactement. Bleus, on est monté, pour la petite anecdote, on avait 1% de notoriété en 2015.
Oh là.
Donc, complètement inconnu.
Bien sûr.
La FIA a été créée 6 mois avant.
Oui, bien sûr.
On est monté à 10% en 2016 et on estime qu'on devra arriver autour de 15% après la Coupe du Monde. Donc c'est un vrai levier pour nous.
Et avec l'occasion aussi, vous avez sorti une gamme spéciale de téléviseurs pour le Mondial. Et c'est vrai que quels que soient les constructeurs, et spécialement vous, on va de plus en plus loin dans la légèreté. Vous avez sorti une série.
Oui.
On voit pas la bordure, ultra fin, finition métal. Enfin bon, on dirait une feuille de papier quasiment.
Téléviseur officiel de la Coupe du Monde. On parlait des avantages d'être partenaire. Ça en est un, c'est-à-dire que nous, sur la catégorie téléviseur, on peut proposer au public français, pour ce qui nous concerne, le téléviseur officiel de la Coupe du Monde. Le produit s'appelle U7A.
C'est ça.
Et nous, ça nous permet de communiquer exactement sur cette gamme du HD Premium qu'on appelle nous ULED.
Vous visez quand même une clientèle Premium quand même. Hein. C'est pas du téléviseur à quelques centaines d'euros. Il faut compter quand même, quoi, 5 000.
Non, beaucoup moins. C'est l'intérêt de notre marque. C'est nous, on se positionne sur le premium abordable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tant que marque chinoise, on a le français lambda, quand même, certains a priori sur les marques chinoises. Faut pas se mentir. Alors qu'aujourd'hui, les plus belles...
De moins en moins, et on le voit avec les téléphones, notamment.
Et nous, tout l'enjeu, c'est qu'on aurait pu arriver il y a 4 ans en faisant de l'entrée de gamme. Mais c'est l'enjeu n'est pas là. Aujourd'hui, c'est comment on arrive à montrer qu'on sait faire du haut de gamme. Et typiquement, les produits dont on se parle là, sur des beaux écrans, moi, je sais pas, 65 pouces, qui sont des très gros écrans, on arrive sur des produits à 1 000 euros. Et pourtant, on a toutes les dernières technologies. D'accord. Et on est vraiment là-dessus. Le premium abordable, et c'est aujourd'hui ce qui fait notre succès.
Ouais, et c'est une période faste pour les ventes de téléviseurs. On voit, quels que soient les constructeurs qui ont mis des téléviseurs OLED dans leur catalogue promotion, ça brade. Hein.
Alors, sur les prix, c'est à discrétion des distributeurs. Ouais. Donc, nous, on ne parle pas des prix. Mais petite anecdote sur le marché de la télé, ça peut vous intéresser. La Coupe du Monde va générer de 200 à 300 000 télés additionnelles sur un mois, sur un marché de 4,6 millions. Donc, globalement, ça, en France, hein, uniquement.
Ah, en France, d'accord. Ouais. Ah oui.
Donc, en gros, ça représente 4 à 5 % de bonus sur une année comme celle-ci.
Virginie, non, mais je voulais évoquer justement le fait qu'au-delà de la communication et de l'histoire qu'on va raconter, il y a un effet mécanique réel sur une augmentation de la consommation des télés, avec un effet assez curieux, parce qu'il y a une étude qui va sortir là très prochainement, où on va interroger les Français sur la façon dont ils vont suivre les matchs de la Coupe du Monde de football. Or, on est sur des horaires qui vont être un peu décalé. Ouais. On n'est pas sur les horaires traditionnels.
Le premier match de l'équipe de France, donc c'est samedi contre l'Australie, c'est midi. Hein.
Voilà, exactement.
Ensuite, 16h, 17h.
Exactement. Alors, midi, ça sera samedi, donc là, c'est jouable. Après, quand on est en semaine, plus compliqué.
On est au bureau.
Et donc, en fait, il s'avère que traditionnellement, la télé, c'est le premier support média pour regarder les matchs d'une Coupe du Monde et suivre l'équipe de France. Là, on va être entre 60 et 70%. Donc, il y a à la fois un vrai recul probablement lié à cette problématique des fuseaux horaires, mais également une vraie évolution sur les supports de communication. Ben
voilà. C'est ce que je disais, on joue la parole promis le PMU dans un instant, je vais me dire ce que vous entendez, ce que vous attendez du mondial, mais puisque vous enchaînez Virgile Caillet, c'est vrai, 3,5 milliards de téléspectateurs, hein, très bien, ce sera une Coupe du Monde très suivie à la télévision, comme à chaque fois, bien sûr, et d'ailleurs, Damien, il se régale, parce qu'il vend des téléviseurs Hisense. Mais voilà, plus en plus maintenant, ça va être les tablettes, voire surtout quand on sait que, par exemple, Twitter et Snapchat, qui ont acheté certains droits, en partenariat notamment avec des chaînes américaines. Enfin, tous ces médias sont mélangés quelque part. Hein.
C'est très déstabilisant.
C'est la nouveauté du cru 2018.
Exactement. Voilà. Alors, on le sentait venir, hein, mais là, on sent vraiment la bascule et l'accélération. C'est très déstabilisant parce que, de la même manière, les annonceurs, les agences, etc., sont habitués aux traditionnelles audiences. Et là, en fait, effectivement, tout ça est battu en brèche parce que les audiences sur les smartphones, sur les tablettes, sur tous ces médias de mobilité et sur l'ordinateur du bureau, comment on les compte dans les audiences, etc. Tout ça est assez troublant.
Ça se fait de plus en plus maintenant. Médiamétrie l'a intégré aussi. Oui, vous, justement, les agences.
La mesure est au point progresse. Pardon. Merci. La question, c'est effectivement quand on est PMU, quand on est un annonceur, comment est-ce qu'on construit des stratégies qui renvoient multi-écran de la télé au smartphone. C'est 84% les Français qui vont suivre et consulter la Coupe du Monde sur leur mobile. Donc quand je suis un acteur de cet univers-là, comment je fais que en sorte que mon téléspectateur, s'il est devant sa télé ou devant son ordi au bureau, parce qu'il va peut-être regarder un peu pendant qu'il est au bureau, en même temps sur son mobile, il puisse vivre l'expérience différente avec du bonus, des infos en plus, des solutions de paris, pourquoi pas, et ainsi de suite. Donc c'est plutôt la question de l'articulation des écrans, et ça dure depuis longtemps. Sur le Brésil, c'était déjà le cas, et avant encore, les articulations, et en médias, on travaille beaucoup le push des messages, à la fois en télé et sur les réseaux sociaux, sur Twitter par exemple, avec des stratégies de double targeting, où on peut être sûr de toucher en même temps quelque chose qui fait écho.
Samuel Loiseau, directeur marketing du PMU.
Oui, il n'y a plus aucun annonceur qui a des stratégies de communication uniquement en télé.
Sur la télé, bien sûr.
Voilà, et ça va même plus loin, c'est que l'ensemble des opérateurs de paris sportifs, pour prendre cet exemple et le PMU en particulier, non seulement il y a une stratégie de communication au bon moment sur le digital, mais qui est très précise en fonction de l'heure du début du match. La présence digitale, elle est calculée à la minute près, et la performance, elle est liée à la minute au moment où vous êtes présent au bon moment et où vous pouvez rebondir sur vos propositions.
Bon, on va continuer, on a encore plein de choses. Oui, vous vouliez me dire un mot, allez-y, Damien Neymar de Hisense.
Juste une petite anecdote là-dessus, c'est quelque chose qu'on a mesuré, nous, en 2016, où on a vu sur nos statistiques de visite de sites internet et sites internet mobiles, des pics, vous parliez justement d'heures, de la précision, à 15h des plus de 100%, à l'époque, en euros 2016, c'était 15h, 18h, 21h, à 18h des pics de plus de 500%, jusqu'à des pics de 1000% à à 21h, avec des gens qui sont connectés à leur téléphone, qui se disent, mais Hisense, je ne connais pas, qu'est-ce que c'est? J'ai vu ça sur les bandeaux.
Ouais.
Et on avait vraiment ce double affichage et qui va encore plus se démontrer cette année.
Hein. C'est un bon outil de mesure du sponsoring. Hein. On parle souvent de l'efficacité, comment mesurer l'efficacité du sponsoring. Ça, c'est un bon indicateur.
Allez, un mot, Augustin, et puis on revient vite.
C'est
après.
Passionnant, ça veut dire qu'on change la façon de travailler le sponsoring. On travaille plus sur des durées longues, de plusieurs semaines, jours, le temps d'une compétition. On travaille à la seconde, quasiment. C'est le futur, les émotions à la seconde, comment on s'associe au moment où un joueur fait une action qui génère de l'émotion. On sait que les messages publicitaires sont perçus différemment à ces moments d'émotion. On change les de temps, c'est assez intéressant.
Bon, allez, on parle du mondial 2018, ça démarre demain. Est-ce que ça sera un mondial pas comme les autres, un mondial qui se démarque? Et puis on reviendra aussi, tiens, sur la curieuse attribution donc au Mexique, aux États-Unis et au Canada, donc pour l'édition 2026. Cette fois, on revient avec les décodeurs de l'écho, à tout de suite.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Ouais, le coup d'envoi demain de l'édition 2018 du Mondial. Jeudi soir, donc, première rencontre à Moscou entre la Russie, donc, qui organise la compétition, et l'Arabie Saoudite. Bon, ça sera pas forcément le match du siècle, mais enfin, en tout cas, c'est comme ça, voilà, c'est le match d'ouverture. 2018, la Russie, 2022, le Qatar, et puis 2026, c'était aussi l'information de la journée attribuée à trois pays en même temps, donc Mexique, États-Unis, Canada, au détriment du Maroc. Organisation à trois, c'est nouveau quand même, Virgile Caillet. On connaissait Corée du Sud, Japon en 2002, là c'est la première fois. Hein.
Tout à fait inédit, puisque c'est carrément tout un continent, hein, Amérique du Nord et Amérique centrale. Pourquoi ce choix? Alors, pour vous dire la vérité, c'est pas une immense surprise. On était, je pense, un certain nombre à espérer sans trop y croire que le Maroc puisse clairement jouer le jeu et avoir sa chance. Malheureusement, je pense qu'il y avait quand même trop d'éléments qui jouaient en sa défaveur et pas des éléments forcément sportifs ou techniques, plutôt des éléments un peu géopolitiques.
Ah bon.
Les États-Unis sont quand même assez agacés, un peu frustrés d'être sortis de l'échiquier mondial, hein, dans le sport. C'est-à-dire qu'ils organisent plus rien. Il n'y a plus de compétition planétaire depuis je sais pas, pas mal d'années. Hein, les jeux d'hiver, Salt Lake, c'est ça. Hein, et donc, ils sont pas prêts de réorganiser quelque chose puisque tout a été attribué jusqu'en 2022. Donc, ils attendaient leur événement planétaire. Poutine a eu sa Coupe du Monde. Trump voulait sa Coupe du Monde, clairement. Il faut rappeler également que c'est quand même la FIFA qui a déterré l'âge de guerre. Les États-Unis qui ont déterré l'âge de guerre pour le FIFA Gate. Ils n'ont pas été jusqu'au bout de la procédure, ça s'est un peu calmé à certains moments. Il semblerait que Michel Platini avait promis la Coupe du Monde aux États-Unis avant de changer d'avis et de pousser pour le Qatar. Donc voilà, tous ces éléments-là finalement ont joué probablement contre le Maroc 2026.
Je cite le président mexicain Peña Nieto qui explique: le Mexique, les États-Unis, le Canada, profondément unis par le football. Bon, alors que Augustin Pénicaud, les relations entre les trois pays sont pas forcément idylliques depuis l'arrivée de Donald Trump. On l'a encore vu donc dans le règlement de compte Trudeau-Trump, c'était au G7 ce samedi. Hein.
Oui, c'est peut-être la, si on veut regarder les choses d'un côté positif, la force du sport d'être capable de dépasser parfois la politique.
Évidemment.
Les candidatures sont censées être apolitiques. D'ailleurs, Trump est intervenu dans la période de candidature en disant des choses très fortes, en disant que si des pays ne votaient pas pour la candidature des trois pays et des États-Unis en particulier, ils couperaient tous accords commerciaux avec eux. Ça avait fait beaucoup réagir le monde sportif, qui tient beaucoup à son indépendance par rapport aux politiques.
Et là, on parle beaucoup de politique, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des raisons, quelque part aussi purement économiques, finalement, de réduire les coûts? Bon, le Maroc n'était peut-être pas aux critères d'un mondial. Peut-être qu'il existait des installations au Mexique, aux États-Unis, au Canada. Augustin Pénicaud et Samuel Loiseau.
C'est pas tant une question de coûts d'organisation. Ça sera pas beaucoup moins cher d'après ce que je sais, même si les dossiers vont changer, hein, comme tout souvent. Pour les États-Unis, c'est ce qui change surtout beaucoup, c'est les espérances de revenus. Les États-Unis promettent, et les trois pays, mais c'est 80% des États-Unis, beaucoup plus de revenus, de billetterie en particulier, de sponsors et de droits télé, les impacts indirects sur les droits télé. C'est surtout ça qui a probablement fait la différence à la fin.
Hein. Samuel Loiseau.
C'est un peu la même logique que pour l'Euro 2020, j'imagine. C'est-à-dire que plus il y a de pays qui sont organisateurs...
Ah oui, tiens, rappelez-le nous, 2020, ça va se tenir dans combien de pays? 13 pays. Bah oui, il y a donc,
donc l'ensemble des pays va encore plus vibrer, ces 13 pays vont plus vibrer qu'un seul.
Bonne remarque.
Donc c'est plus de retombées économiques pour chacun des pays aussi.
Alors, plutôt un choix politique, hein, de l'UEFA, d'élection, les 13 pays, je pense, sur l'Euro 2020. Hein.
Fallait les séduire, peut-être, en effet. On a parlé donc avec iSense de l'intérêt de miser sur le Mondial 2018. Vous, le PMU, donc partenaire de l'équipe de France, on voit les marques qui veulent s'associer encore plus fortement avec ce grand tournoi, le plus grand tournoi sportif de la planète, avec en égalité avec les JO, bien sûr. Vous, qu'est-ce que vous attendez, vous, le sponsor de l'équipe de France, et puis aussi grand acteur des paris en ligne?
Alors, pour le pari sportif, la Coupe du Monde est un moment clé. Dans l'année, pendant la Coupe du Monde, le nombre de recrutements de nouveaux clients, il est multiplié par 5 par rapport à un mois normal. Ce qu'on attend sur les paris en ligne, entre 200 et 300 millions d'euros d'enjeux, de mise.
C'est-à-dire vaguement 10% de ce qu'on des enjeux à l'année, de 2 milliards et demi. On a vu d'ailleurs une forte progression de 20% sur un an. Les paris sportifs se portent bien en France. Hein.
Les paris sportifs se portent très bien, c'est 30% de croissance annuelle depuis 4 ans. Donc c'est un moment clé pour l'ensemble des opérateurs de Paris et pour le PMU en particulier. Donc ce qu'on attend de la Coupe du Monde, c'était intéressant ce que disait Augustin tout à l'heure, ça marche plus les sponsors qui apposent leur logo juste pour être connus. Il faut raconter une histoire, et nous, l'histoire qu'on veut raconter en tant que partenaire de l'équipe de France, c'est que on s'associe à l'équipe préférée des Français. De loin, de tous les sports, l'équipe préférée des Français, c'est l'équipe de France. Et encore plus pour les clients PMU que pour la moyenne des Français. Hein, le chiffre qui est important pour nous, c'est que 51% des clients PMU se disent très intéressés par l'équipe de France, quand c'est 27% des Français. Donc cette association-là, elle est importante aussi pour remettre au centre les valeurs de convivialité, de partage du PMU, et puis tout simplement pour faire passer nos messages. En l'occurrence, on a deux messages pendant la Coupe du Monde. Le PMU est numéro un du pari, donc en termes de crédibilité, de facilité à ouvrir un compte, c'est un message qui est encore mieux porté quand il est dit par les Bleus. Et puis c'est l'offre de bienvenue à 200 €. C'est des messages très commerciaux, mais
l'occasion de lancer des nouveaux produits, des nouveaux jeux, des nouveaux services, justement.
C'est surtout l'occasion d'animer avec des promotions l'ensemble de nos plateformes, dont nos plateformes digitales, mais aussi nos points de vente. Hein, on a 13 000 points de vente qui seront repeints. On appelle ça les barres des Bleus pendant la Coupe du Monde, qui seront repeints aux couleurs des Bleus, parce que par nos parieurs en points de vente, nos parieurs hippies qui s'intéressent aussi au match de la Coupe du Monde, évidemment. Donc c'est l'occasion d'animer aussi ce marché et le pari hippique en point de vente.
La France, les audiences, on parlait de 3,5 milliards de téléspectateurs, donc dans plus de 200 pays. En France, c'est TF1 qui va partager l'événement avec Bein Sport. Oui, c'est quand même une première, voilà, la chaîne du Qatar qui est payante face à une grande chaîne gratuite. Comment ça va se faire, la répartition? Combien TF1 espère-t-elle encaisser, justement, le prix du spot de 30 secondes? Et ça va être rentable pour eux ou pas? Ils ont mis combien sur la table? On parle de 70 millions d'euros, vrai, faux?
J'ai pas l'info, Virgile, tu dois savoir ça.
Non, je veux pas dire d'annerie, parce que ce sont pas des chiffres qui circulent pas, ouais, forcément, mais ce que l'on sait, c'est que une chaîne publique ne rentabilise jamais un événement de cette envergure. Exactement. Et c'est pour ça que finalement, l'association d'une chaîne payante qui va satisfaire ses abonnés cœur de cible, grands fans de foot, et la complémentarité avec une chaîne gratuite qui va aller toucher le public dans son ensemble sur des grosses affiches, ça fonctionne très bien, ça a fonctionné sur l'Euro, et je pense que c'est effectivement la solution vers laquelle on va aller de plus en plus, cette double diffusion, en fait.
Ouais. Augustin Pénicaud, Avasport Entertainment. Hein.
Les enjeux sont variés pour TF1, il y a effectivement beaucoup une question de statut, c'est un peu, à notre échelle, les histoires de nation branding dont on parlait tout à l'heure. Je suis la première chaîne, je diffuse la Coupe du Monde, j'ai pas besoin de diffuser tous les matchs pour dire ça, je diffuse les plus importants, j'y suis. Ensuite, si une autre chaîne a les droits, une partie des droits, elle a en l'occurrence tous les droits, tous les matchs seront en direct sur Bein Sport, ça me permet de payer un peu moins cher, je m'y retrouve plus. Pour Bein, l'enjeu, c'est pas cet enjeu-là, c'est pas un enjeu publicitaire d'achat, de vente d'espace publicitaire, c'est surtout un enjeu d'abonnés.
De fidélisation.
Ils ont des gros enjeux sur le foot, comme on sait, ils ont perdu quelques droits, donc la Coupe du Monde, c'est important pour continuer à dire, venez, suivez, abonnez-vous.
Oui.
L'OKIPEA, il s'est plus plutôt le nombre d'abonnés, je pense.
Et on a vu comment le PMU donc s'engageait, donc faisait partie des partenaires majeurs de l'équipe de France. L'équipe de France, elle est attractive pour les sponsors. L'équipe de France 2018, Virgile Caillet.
Alors incontestablement, je réponds oui. Il y a eu une réhabilitation. On a souffert, vraiment souffert après Knysna. Il y a eu une descente aux enfers parce que 2012 a pas été brillant non plus. C'est-à-dire qu'on croyait que l'équipe de France allait se relever. Finalement, il y a eu quand même pas mal d'affaires avec les médias, des comportements inappropriés. Et les Français sont extrêmement sensibles parce que l'équipe de France, elle porte les signes distinctifs de la France. Donc il y a quelque part inconsciemment une sorte de fierté, d'orgueil national et une vraie responsabilité pour cette équipe de France. Depuis 2016, on a retrouvé une équipe de France qui a le sourire, qui est fière de porter le maillot bleu, une vraie proximité. C'est pour ça que des annonceurs comme le PMU, c'est très important pour eux, cette association. Et donc, oui, aujourd'hui, l'équipe de France a retrouvé toute son attractivité marketing et médiatique.
Augustin Pénicaud.
Un chiffre peut-être, la ferveur des Français, des fans de foot pour l'équipe de France a continué à progresser alors je parle pas de 2010, mais même en 2014 on était à 40% et aujourd'hui dans une étude qu'on a menée tout récemment, on est à 53%. On est vraiment en progression, et je parle d'un cœur de cible là, en progression, petit à petit, durablement, l'image se reconstruit, et c'est ça que viennent chercher les partenaires.
Oui, Damien Lémar, directeur marketing de Hisense en France.
Ouais, nous on n'est pas sponsor de l'équipe de France, donc voilà, je ne veux pas parler sur ce sujet-là, mais c'est vrai qu'il y a des enjeux économiques forts. Nous, on estime que ça va nous faire gagner à peu près deux ans de business, très clairement. Et on en parlait de l'appétence des Français à l'équipe de France, c'est pareil. Donc, c'est aussi important de faire aimer sa marque, et que ce soit avec le PMU ou Hisense, on a besoin de faire aimer sa marque et de faire comprendre ce qu'on fait.
Ça sera un mondial de foot aussi très connecté, avec une tech très présente aussi. Ça, c'est peut-être aussi l'une des nouveautés de l'édition 2018. Ou par exemple, il y a une puce dans le ballon officiel pour livrer des informations comme ça sur le match en temps réel. Il y a des experts en données de réalité virtuelle qui analysent les matchs. Voilà, Erwan Maurice qui m'expliquait ça tout à l'heure.
Mais complètement. Enfin, c'est dans la droite ligne de ce qu'on disait tout à l'heure à propos des médias. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la digitalisation, le numérique est partout, et on doit aller toucher les publics partout où ils sont. Donc c'est cette. Alors je sais pas si c'est une fuite en avant, mais cette omniprésence de la techno, ça sera encore plus vrai effectivement en Russie.
Donc au total, quand on voit l'engouement des Chinois qui convoitent ce mondial au travers des marques comme vous, Hisense, quand on voit la diffusion aussi sur toutes sortes de médias, des tablettes, des téléphones, etc. Et puis la tech, c'est un mondial qui se met aux couleurs du monde de 2018. C'est vraiment un mondial qui se démarque. Allez, petit tour de table chacun. Samuel Loiseau, PMU, un mot, et puis chacun.
C'est un mondial qui va en tout cas être, on le dit à chaque nouveau mondial, à chaque nouvelle compétition, où le smartphone va être encore plus au cœur des interactions des clients avec la compétition.
C'est un mondial qui va se démarquer sur le plan technologique, et on espère qu'il se démarquera aussi sur le plan sportif.
On en a pas du tout parlé, mais parce que c'est pas l'objet, c'est pas l'endroit pour parler en effet de sport. Il y a des chaînes qui font ça beaucoup mieux que nous. Damien Lémar.
Pardon. Oui, c'est pourtant lié, hein, en effet, l'aspect sportif, que on le sait, et c'est mesuré. Plus l'équipe de France va aller loin, plus cette envie de plaisir va être fort, quelles que soient les catégories.
Chaque chose en son temps, on va pas griller les étapes, que le meilleur gagne, comme ça, c'est comme ça que je dis à chaque fois. Augustin Pénicaud, le mot de la fin.
Je crois que si on se rejoint, la techno, les innovations, c'est super, on vit une meilleure expérience en tant que fan, mais à un moment, c'est bien peut-être aussi d'accepter, et les partenaires, les annonceurs doivent le comprendre, de laisser tomber les écrans et de vivre l'émotion.
Merci beaucoup, Augustin Pénicaud, directeur associé Avasport Entertainment. Damien Lémar, l'un des directeurs de Hisense en France. Donc, on a découvert ou redécouvert 4e vendeur mondial de télévision. C'est une marque chinoise, donc, avec 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Virgile Caillet, délégué général d'Union Sport et Cycle, et puis Samuel Loiseau, donc directeur marketing du PMU, donc partenaire officiel de l'équipe de France, et puis grand acteur des paris en ligne. Les décodeurs de l'écho, on revient très très vite sur BFM Business.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.
AI may be the most important new computer technology ever, but AI needs a lot of processing speed, and that gets expensive fast. Upgrade to the next generation of the cloud, Oracle Cloud Infrastructure, or OCI. OCI is the single platform for your infrastructure, database, application development, and AI needs. Do more and spend less, like Uber, 8x8, and Databricks Mosaic. Take a free test drive of OCI at oracle.com/insightful. Oracle.com/insightful.